Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour Yves Dagiraud.
Nous avons évoqué avec vous dans une précédente émission les plates tombes, dalles funéraires, en feu et autres gisants qui ornent nos édifices religieux. Vous nous avez dit la date charnière de la fin du XVIIIe siècle. L'inhumation quitte l'église pour s'en éloigner de plus en plus. Rares sont en effet les cimetières modernes proches des édifices religieux. Il est en revanche une pratique qui perdure, c'est celle des plaques commémoratives et autres ex voto. Elles sont souvent liées aux guerres et à commencer par celle de 14.
Oui, et c'est vrai qu'à la fin du XVIIIe, il n'y a plus d'enterrement dans l'intérieur des églises. Donc physiquement, il n'y a plus de corps. Mais à l'occasion du conflit de la Première Guerre mondiale, on va assister à la mise en place de nombreuses plaques commémoratives qui vont garder le souvenir des morts et des disparus durant le conflit.
Alors, est-ce que ces plaques commémoratives datent vraiment du début du XXe ou qu'en était-il des siècles précédents? En trouve-t-on antérieurs au XXe siècle?
Alors, on peut avoir des exemples antérieurs, mais sont souvent liés à une personne, à une famille, donc commémorer un défunt. Ici, au début du XXe siècle, à l'occasion du premier conflit mondial, c'est vraiment une plaque qui évoque qui évoque tous les défunts de la communauté à l'occasion de la guerre.
Alors, très concrètement, comment font-elles leur apparition dans les églises?
Alors c'est souvent à l'initiative, parfois des initiatives de familles qui veulent, qui à l'occasion des obsèques de leurs soldats défunts, vont vouloir commémorer son souvenir. Et ça va être encadré aussi par l'autorité ecclésiastique.
Alors la présence de plaques à la mémoire des défunts dans les églises est courante, vous le disiez. Il s'agit d'objets privés, mais l'église, l'autorité diocésaine est prescriptrice, les textes en attestent.
Oui, alors c'est vrai que quand on peut parler de statut privé dans la mesure où là, bien sûr, on est après la loi de 1905, donc ces plaques sont mises en place à l'instigation, en tout cas sous le contrôle du curé, de la paroisse, sous l'autorité de l'évêque. Donc c'est vrai qu'elles ne sont pas propriétés communales, mais elles sont propriétés de la paroisse. C'est en ce sens qu'on peut parler de monuments privés.
Alors, vous avez un exemple précis, vous vous êtes penché dans les archives et vous êtes tombé sur une lettre circulaire de l'évêque de Tarbes, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, en date de 1917.
Oui, tout à fait. Dès cette époque-là, on est encore un peu loin de la fin du conflit, mais l'évêque de Tarbes envoie cette lettre circulaire à tous les prêtres, constatant que beaucoup de familles se recueillent et lèvent des sortes de petits mausolées à l'intérieur des églises. Donc il faut encadrer ces pratiques, et tout en honorant religieusement la mémoire des héros tombés au champ d'honneur.
Alors je crois qu'on peut lire ce texte, cette circulaire, parce qu'elle est très précise.
Oui, l'évêque s'exprime de cette façon. Nous vous invitons à vous concerter sous la direction de monsieur le curé et d'accord avec les autorités civiles en vue d'acquérir, pour être appliqué après la guerre sur les murs de votre église, à la place indiquée par votre pasteur, une plaque de marbre sur laquelle seront gravés les noms des enfants de la paroisse morts au service de la France.
Et là, l'évêque de Tarbes se montre même très précis sur les données qui doivent figurer sur ces plaques. J'imagine qu'il en est de même dans les autres diocèses.
Oui, alors c'est vrai que dans le cas du diocèse de Tarbes, il est précisé qu'à côté de chacun des illustres noms des défunts, il y aura lieu d'ajouter son âge et également et la date de son décès.
Alors, ces précisions ont un but bien précis.
Oui, il s'agit en fait de permettre aussi à la communauté villageoise, à la communauté paroissiale, de faire son deuil aussi collectif, d'accompagner les familles qui ont été éprouvées par la mort d'un enfant au combat.
Oui, et puis peut-être y a-t-il aussi une volonté d'éviter une certaine anarchie à l'intérieur de l'Église. Il faut que tout ça soit quand même bien ordonné.
Oui, parce qu'effectivement, il semble d'après ce texte que dans beaucoup d'églises, en tout cas de Bigorre, il y avait beaucoup d'initiatives privées avec la présence de couronnes funéraires qui a encombré un petit peu certains endroits de l'Église, et puis des familles qui avaient tendance à offrir aussi une statue, un autel, un objet en mémoire du défunt.
Alors il y a ces plaques commémoratives en hommage aux soldats tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Alors je ne sais pas si on trouve dans les églises d'Occitanie des objets équivalents, mais par exemple prenons des chapelles de bord de mer, on peut y trouver des bateaux qui ont été déposés là justement en hommage à un sauvetage ou un chavirage qui s'est finalement bien passé. Est-ce qu'on trouve des objets analogues ou une pratique identique dans notre Occitanie?
Oui, on peut trouver de ces ex-votors. Souvent, c'est vrai que ces bateaux qui frappent, ils ont été offerts parce que l'épisode s'est bien terminé. Hein. Alors, il y a notamment des églises en Provence qui en sont riches. On a un exemple en Occitanie, c'est un peu curieux, c'est dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour. On est quand même très loin de la mer, mais Notre-Dame de Rocamadour était réputée pour venir en aide aux marins qui étaient dans la difficulté. Donc, voilà, de mémoire, il y a un, voire deux ou trois navires qui sont accroché dans la chapelle.
Alors, ces hommages aux hommes tombés au champ d'honneur n'ont pas pour seul cadre l'Église. Ils peuvent sortir de l'Église et là, il prend un caractère, j'ai envie de dire, républicain et municipal. C'est l'apparition, en fait, des monuments aux morts.
Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'en parallèle de ce désir vu par les diocèses, les municipalités aussi vont ne pas être en reste et vont vouloir commémorer les disparus. On a un exemple tout à fait intéressant en datant de 1916 hein, dans les Hautes-Pyrénées.
Ouais, à Vic-en-Bigorre, je crois.
Voilà, tout à fait. Dès 1916, hein, donc on est encore malheureusement assez loin de l'issue du conflit, la municipalité souhaite mettre en place un monument commémoratif et vote plutôt la construction de ce monument sur un terrain du cimetière.
Qu'en était-il au XIXe siècle? Le monument aux morts est vraiment caractéristique du premier conflit mondial. Qu'en était-il de la guerre de 70?
Alors, il existe quelques exemples assez rares, hein, effectivement, de monuments qui commémorent la guerre de 1870. Mais c'est vraiment à l'issue du conflit de 14-18, à partir même des années 1919-1920, qu'il va y avoir... chaque commune va vouloir posséder son monument aux morts. Il y a des entreprises aussi qui vont être spécialisées dans ce type de réalisation.
On peut d'ailleurs à ce propos conseiller à nos auditeurs, s'ils n'ont pas déjà fait, d'aller voir le film d'Albert Dupontel tiré d'un livre qui a reçu le prix Goncourt. Au revoir là-haut, je pense qu'il est toujours sur les écrans. Voilà, Thibault, je vous remercie, à très bientôt.
Merci Luc, à bientôt.